Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des gros mots d'Allah. Vous ne le savez peut-être pas, mais dans le Coran, Allah, le créateur de l'univers, insulte. Il insulte, mais il insulte le saligo du début à la fin. Et il insulte tellement ses créatures qu'il a fallu un fichier Excel pour recenser, lister toutes les insultes que profère Allah dans le Coran. Dans cette liste créée par un internaute qui fait un travail incroyable sur Reddit, sous le pseudonyme de ex-muslim, je vous mettrai le lien en description, un post qui s'intitule « Allah the insult God », Allah le dieu des insultes, on a un aperçu du vocabulaire plutôt fleuri du créateur de l'univers. Et tout y passe. Selon Allah, les mécréants sont, selon les cas, des singes, des porcs, des chiens, des bâtards, des fils de pute, des saletés, des ordures, des sourds, aveugles, muets, parce que oui, Allah se moque aussi des personnes en situation de handicap. Et je comprends mieux maintenant d'où vient l'inspiration des islamistes fanatiques qui m'insultent. Ils prennent exemple sur Allah. Avant d'aller plus loin et d'entrer dans le vif du sujet et de décortiquer le vocabulaire d'Allah, si t'aimes ce que je fais, si tu penses que mon travail a de l'intérêt, eh bien tu peux le soutenir via Patreon et ton soutien ou ta contribution te donneront accès à près de 200 podcasts exclusifs que je n'ai diffusés nulle part ailleurs sur plusieurs thèmes, relations hommes-femmes, vie professionnelle, carrière, investissement, fonds indiciels, ETF et bien d'autres choses. Par contre, vous n'y trouverez pas de contenu relatif à l'islam parce que je considère que la critique de cette idéologie mortifère est d'utilité publique et qu'elle doit rester accessible à une large audience. Petite crotte de nez à ceux qui pensent que je tire profit de ma critique de l'islam. Pas du tout et bien au contraire, c'est une perte sèche, financièrement parlant. On peut gagner de l'argent en faisant l'apologie de l'islam. Il y a des lobbyistes qataris, saoudiens qui vous paieront très généreusement pour promouvoir l'islam. Mais personne ne vous paiera jamais pour critiquer l'islam. Donc il faut bien comprendre que tous ceux qui critiquent cette idéologie mortifère donnent de leur temps, de leur personne, en mettant leur vie en jeu aussi, pour dénoncer cette idéologie qui, selon moi, est un danger pour l'humanité, un danger pour la civilisation. Là où l'islam passe, l'herbe ne pousse plus. Cette idéologie a le pouvoir de transformer un jardin en désert. D'ailleurs, vous aurez constaté que même les nuages refusent d'aller dans les pays qui appliquent la charia. C'est pour vous dire. Cela étant dit, abordons sans plus tarder notre première sourate où Allah insulte les mécréants de zanim, de bâtards, de fils de pute. Il s'agit de sourate Al-Kalam, le crayon, versets de 8 à 13, qui nous dit, après « Bismillahirrahmanirrahim », n'obéis pas à ceux qui crient au mensonge. Ils aimeraient bien que tu transiges avec eux afin qu'ils transigent avec toi. Et n'obéis à aucun grand jureur méprisable, grand diffamateur, grand colporteur de médisance, grand empêcheur du bien, transgresseur, grand pécheur, au cœur dur, et en plus de cela, bâtard ou zanim en arabe. La première fois que j'ai lu ça, j'étais plié en quatre. Verset 13 de Sourate Al-Kalam, Allah traite les mécréants de zanim, de bâtards. Et je suis allé voir les tafassirs, les exégèses. Je me suis dit, mais qu'est-ce que cette histoire? Qu'est-ce qui a pu mettre Allah tellement en colère qu'il s'est mis à insulter sa propre créature de bâtard, de fils de pute? Qu'est-ce qui lui arrive? Et l'un des premiers tafassirs que j'ai consulté, c'est Ma'arif al-Qur'an, un tafsir très populaire, très connu et très respecté, qui nous dit « Le mot zanim fait référence à une personne dont la naissance légitime d'un père n'est pas prouvée. La personne mentionnée dans ce verset avait une naissance douteuse où son lignage était incertain. » Un autre tafsir, celui de Al-Jalalayn, nous dit que dans ce verset, donc le verset 13 de Sourate Al-Kalam, on parle d'un fils adoptif des Quraysh, à savoir Al-Walid ibn Al-Mourira, dont le père le revendiqua après 18 ans. Ibn Abbas nous dit « Nous ne connaissons personne d'autre que Dieu est décrit de manière aussi péjorative, le maudissant d'ignominie qui ne le quittera jamais. » Et lorsqu'on essaye de comprendre qui est cet individu que Allah insulte, pourquoi il l'insulte aussi violemment, aussi méchamment, pourquoi il lui dédie quasiment une sourate, un verset du moins, pour l'insulter. Eh bien, on apprend que Al-Walid ibn al-Mughira était un membre éminent de la puissante tribu des Quraysh, qui est aussi la tribu du prophète à la Mecque. Il était connu pour sa richesse et son statut dans la société pré-islamique. Il est souvent mentionné dans les textes islamiques pour son opposition ferme au prophète Mohammed et à son message. Il a rejeté l'islam et il est devenu l'un des adversaires les plus vocaux du prophète. Et voilà donc le contexte dans lequel Allah l'insulte de bâtard, de fils de pute. Comme toujours et comme d'habitude, c'était un ennemi, un opposant de Mohammed Rasulallah. Et à chaque fois que Rasulallah a des problèmes dans sa vie au quotidien, qu'il a du mal à imposer son dogme, faut comprendre que l'islam au début, c'était une secte avec 10-12 personnes que tout le monde détestait, des voyous qui attaquaient des caravanes. Et donc tous les notables de Quraysh détestaient ces gars. Et lorsqu'il faisait face à une difficulté, Rasulallah, il allait courir dans sa grotte de Hira et gribouiller un petit texte, fils de pute, Zadim, va te faire enculer. Il redescend et dit, regarde, regarde ce qu'il t'a dit, Allah. Allah, il t'a insulté, nanani, nanana. C'est que ça le Coran. C'est Rasulallah qui a des problèmes parce qu'il est insupportable. Les gens ne le supportaient pas. Il va dans sa grotte, il gribouille un truc, il revient et il dit, regardez, regardez ce qu'il a dit, Allah, espèce de Zadim, espèce de bâtard. Et le tafsir de Ibn Kathir nous dit, au passage, il est intéressant de croiser les tafsirs parce qu'ils ne disent pas toujours tous la même chose. Et lorsqu'il y a un doute sur une traduction, sur une signification, notamment sur le mot zalim, il est important de croiser les informations. Et lorsqu'on a 3, 4, 5 tafsirs qui convergent vers la même définition et vers la même histoire, on peut en conclure que c'est solide, que c'est une piste solide. Et le tafsir de Ibn Kathir nous dit « En langue arabe, le zanim est une personne qui est adoptée parmi un groupe de personnes, c'est-à-dire qu'il n'en fait pas véritablement partie. » Ibn Jarir et d'autres parmi les imams ont dit cela concernant la déclaration d'Allah « Utul » ou « Utulun ba'da dhalika zanim ». Donc voilà pour la première insulte d'Allah, zanim, bâtard, fils de pute. Après Zanim, mon insulte préférée, on la trouve dans le verset où Allah insulte l'oncle du prophète Abu Lahab. Ça se passe dans la sourate Al-Masad, la sourate 111, qui est une très courte sourate de 5 versets qui nous dit, après Bismillahirrahmanirrahim, que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. De même, sa femme, la porteuse de bois, a son cou une corde de fibre. Et là, c'est une sourate incroyable parce qu'on sent la colère. Quand tu lis le truc, tu sens la colère et encore plus en arabe. En arabe, ça donne « Tabbat yada abi lahabin wa tabba ». Tu sens qu'il est vénère. Allah, il est vénère. Et là, tu dis, mais pourquoi le créateur de l'univers est aussi vénère? T'imagines la puissance, la force qui a généré ce monde, si elle existe, doit être incommensurable. La première question qu'on peut être amené à se poser, c'est pourquoi s'inquiéter autant d'un individu qui s'appelle Abu Lahab et qui est au passage l'oncle du prophète? Du coup, je suis allé voir les tafsirs. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour autant énerver Allah? Il a fait quoi, Abu Lahab? Et donc, je suis allé voir le tafsir de Ibn Kathir pour comprendre un peu le contexte. Et là, première chose, première surprise, j'ai découvert que les tafsirs ou que les traductions des tafsirs étaient falsifiées. C'était un choc pour moi. Parce que dans le texte original, la femme de Abu Lahab est aussi insultée. Donc la femme de l'oncle du prophète est aussi insultée, elle est insultée de porteuse de bois. Par contre, dans la traduction française, on ne trouve pas porteuse de bois. On trouve lui et sa femme qui attisent tes mauvaises passions. Cette partie de porteuse de bois a été modifiée. Du moins modifiée dans le tafsir français de Ibn Kathir. est modifiée dans beaucoup de traductions du Coran. L'une des plus justes, c'est celle de Oregon State University qui le traduit correctement. Donc, de même, sa femme, la porteuse de bois. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Faut être extrêmement vigilant avec les traductions parce que j'ai réalisé que beaucoup d'Occidentaux, alors, est-ce qu'ils ont été payés par l'Arabie Saoudite? Est-ce que c'est des lobbyistes? Tous ces traducteurs qui traduisent le Coran? Je ne sais pas. Mais j'ai découvert qu'il y avait des falsifications dans les traductions pour adoucir le texte. Parce que lui et sa femme, la porteuse de bois, n'a rien à voir avec lui et sa femme qui attisent des mauvaises passions. La porteuse de bois, c'est une insulte méprisante gratuite. Allah insulte la femme de Abu Lahab parce qu'elle était peut-être de petite condition, j'en sais rien, si elle ramasse du bois, probablement pour se chauffer, pour faire la cuisine. Il n'y a pas de mal à ramasser du bois. Et les traducteurs ont dû se dire, ça c'est un peu fort de café ça, la porteuse de bois, Allah qui insulte une femme parce qu'elle porte du bois ou qu'elle ramasse du bois pour chauffer, pour cuisiner, ça risque de mal passer. Donc il y a beaucoup de traductions qui ont adouci le Coran pour faire avaler la pilule aux Occidentaux. Soyez très vigilants avec les traductions, d'où l'intérêt de croiser les informations, de comparer 2, 3, 4 traductions différentes. Qui plus est, ce qui m'a choqué, c'est que c'était simple comme mot. Ce n'est pas un mot compliqué à traduire qu'on peut traduire de 20 façons. En arabe, il est écrit « hamalatu hatab ». « Hamala » porteuse, « hatab » bois. Le bois est un matériau. Il n'y a pas un million de façons de traduire « hatab ». L'idée que ce traducteur eût modifié le mot prouve une profonde malhonnêteté. C'est de la malhonnêteté et de l'intention de falsifier. Et de mon expérience, de toutes les traductions du Coran que j'ai trouvées sur Internet, souvent, celle qui reprend les traductions au plus juste, c'est Oregon State University. En général, c'est toujours assez proche de la version originelle en arabe. Donc voilà un peu pour la sémantique et pour les traductions. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi le créateur de l'univers est en colère. Et voilà ce que nous dit le tafsir de Ibn Kathir concernant le verset « que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse ». Ibn Abbas rapporte que le prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, sortit un jour vers le désert ou monta sur le mont Safa, suivant une autre variante, et s'écria « Ô mon matin !» Ya Sabah. Les Korachites se réunirent devant lui et leur dit « Si je vous annonce que l'ennemi vous attaquera le matin ou le soir, ne me croiriez-vous pas ?» Ils lui répondirent « Certes, oui. » Il ajouta « Je vous avertis qu'un châtiment douloureux vous attendra. » Abu Lahab lui dit alors, donc l'oncle du prophète qui était là lui dit alors « Puisses-tu périr ? Est-ce pour cela que tu nous as réunis ?» Dieu, à cette occasion, fit descendre cette sourate « Maudites soient les mains d'Abu Lahab », etc., etc. Donc Abu Lahab, selon le tafsir, était l'oncle paternel du prophète qui lui nuisait, le méprisait et le combattait. Son vrai nom est Abdul Uzza ben Abdul Muttalib. Et le contexte m'a beaucoup fait rire parce que on comprend que c'est encore une fois une bagarre entre Muhammad Rasulallah et l'un de ses détracteurs. Donc le gars, il réunit les gens, il les emmerde, hein, tu vois, il les fait chier, il les réunit dans le désert ou pas loin du mont Safa et il leur dit « Si je vous dis qu'on va vous attaquer demain, vous me croyez ou pas ?» Et son oncle Abu Lahab lui dit « Muhammad, c'est pour ça que tu nous casses les couilles. Tu nous as réunis pour nous dire si on croit en toi ou si on croit en ce que tu racontes. T'es un débile. » En fait, c'est ça l'histoire. C'est Abu Lahab, l'oncle du prophète, qui savait que son neveu Muhammad Rasulallah était une petite frappe, un voyou, une racaille qui cassait les couilles à tout le monde. Et il lui dit, à juste titre, « C'est pour ça que tu nous réunis ? Pour nous raconter tes conneries de châtiment douloureux qui nous attend, etc. On a des choses à faire. Toi, t'es au chômage. » Toi, Rasulallah, t'attaques des caravanes, t'as pas de boulot, t'as pas de métier, t'es au chômage. Mais nous, on travaille. On est des éleveurs, des agriculteurs, des commerçants, on a des choses à faire. Tu nous casses les couilles du matin au soir. Voilà le contexte de cette sourate, Tabbat yada abi lahabin wa tabba. C'est Le prophète qui utilise encore une fois le Coran qu'il allait bricoler, bien sûr, encore une fois, vous imaginez, après cet épisode, il allait bricoler une petite sourate dans sa grotte, il est redescendu, l'ange Gabriel, il t'insulte, Abou Lahab, t'es une petite merde. C'est que ça. Le Coran, c'est la bagarre, du début à la fin, entre Rasulallah et les gens qui l'entourent. Et en fait, ce qui ressort de la lecture des tafassirs et des hadiths et du Coran, c'est que les gens autour du prophète n'étaient pas mauvais. C'était des idolâtres, c'était des libéraux, c'est-à-dire que tu pouvais croire en ce que tu voulais. Ils avaient même autorisé le prophète Mohammed à croire en ce qu'il voulait. C'est juste que ce que eux ne voulaient pas, en étant des libéraux authentiques, c'est qu'on leur impose cette religion insupportable, néfaste, négative, hyper rigoureuse. C'est tout ce qu'ils demandaient. Ils lui ont dit, mais toi, fais ce que tu veux. Toi, tu veux croire en ce que tu veux. De toute façon, la Mecque, c'était l'endroit le plus libéral sur Terre. Tu veux croire en un caillou, une stèle, une montagne, tu fais ce que tu veux. Il y avait des chrétiens, des juifs, des zoroastriens, des animistes, des idolâtres, des associateurs, il y avait tout ce que tu veux. Et ils vivaient tous ensemble dans une espèce de libéralisme absolu. Et c'est pour ça qu'ils détestaient Mohammed, parce que Mohammed, c'était pas un libéral, c'était un dictateur qui voulait imposer son autorité. Et probablement que sans l'islam, ces pays-là seraient devenus autre chose. Je pense que la tendance libérale aurait continué. Ça serait des pays où tu fais ce que tu veux, tu crois en qui tu veux, tu vis comme tu veux. C'est ça le libéralisme. Une notion que peu de gens comprennent parce qu'ils mélangent tout, libéralisme, finance, néolibéralisme, ils pigent rien. Mais le libéralisme authentique, c'est la liberté de faire ce que tu veux sans l'intervention d'un État centralisé qui te dit comment manger, comment respirer, comment sortir, que faire, quoi consommer, sans parler de l'imposition, de la taxation, etc. Le libéralisme, c'est une intervention minimale de l'État et d'une autorité supérieure. Alors que l'islam se rapproche plus d'un système dictatorial centralisé, il se rapproche beaucoup du communisme aussi. D'ailleurs, c'est assez intéressant, quand je critique le communisme, je trouve beaucoup de points communs entre les défenseurs du communisme et les défenseurs de l'islam. C'est toujours la même chose. Les défenseurs du communisme vont te dire « mais ça, c'est pas le vrai communisme. Le communisme qui a été appliqué en Union soviétique, c'est pas le vrai communisme. C'est un communisme corrompu. Le communisme authentique est meilleur, il marche mieux. Si on s'était contenté d'appliquer le manifeste communiste, ça se serait mieux passé. » On a la même chose concernant la critique de l'islam. C'est pas le vrai islam, c'est pas les vrais textes. C'est pas, ils ont été falsifiés, ils ont été modifiés. C'est incroyable, ça me fascine à chaque fois quand je fais une vidéo de critique du communisme et une vidéo de critique de l'islam. Il y a une convergence entre les défenseurs du communisme et les défenseurs de l'islam. C'est assez ironique lorsqu'on sait que le communisme est contre les religions. Je me dis, c'est assez ironique de trouver des points communs entre le fondamentalisme islamique et l'idéologie communiste. Mais dans la logique des défenseurs de ces dogmes, on trouve les mêmes comportements. Pourquoi ? Parce que c'est des dogmes, justement. Donc il y a un niveau d'endoctrinement, autant chez l'islamiste que chez le communiste. Il croit en un truc qui ne marche pas, qui crée la terreur, la pauvreté et la misère, mais ils y croient tellement dur, ils sont endoctrinés, qu'ils sont obligés de trouver des moyens de défense du type « ça n'a rien à voir avec le communisme » ou avec l'islam, ce n'est pas l'islam authentique, ce n'est pas le communisme authentique, ça a été corrompu, ça a été modifié, c'est pas de la faute des textes, c'est de la faute des gens, c'est pas de la faute du manifeste communiste, c'est de la faute de l'application des gens qui n'appliquent pas à la lettre, qui n'appliquent pas correctement. La même chose. Et donc voilà le contexte qui explique cette bagarre constante et permanente entre le prophète Rasulallah et les Quraïchites. Le narratif islamique officiel explique que le prophète était persécuté, qu'il ne faisait que se défendre, que c'est eux qui essayaient de l'emmerder. Mais lorsqu'on lit les textes, c'est tout le contraire. Personne ne l'emmerdait. C'est lui qui les faisait chier. C'est lui qui attaquait les caravanes. C'est lui qui essayait de racketter les tribus juives des environs. C'est lui qui empêchait les gens de travailler en essayant de collecter de l'argent comme il pouvait parce qu'il n'avait pas de métier. L'un des secrets les mieux gardés du prophète de l'islam, c'est qu'il n'avait pas de métier. C'était un voleur. Il a commencé par travailler chez Khadija et elle l'a embauché certainement parce que forcément, étant un attaqueur de caravane, une racaille, un voleur, Elle s'est dit, si je l'embauche, il va bien gérer la chose. Il sait comment ça marche, étant lui-même un voleur. Mais vous ne trouverez rien dans les textes islamiques qui parlent du métier de Rasoul Allah. Il n'avait pas de métier. À part la parenthèse où il travaillait pour Khadija, où il gérait ses caravanes et son commerce, après la mort de Khadija, on ne sait pas par quel métier il gagnait son argent. Je défie quiconque de me dire comment le prophète de l'islam gagnait son argent. Il n'était pas charpentier, il n'était pas éleveur, il n'était pas agriculteur, il était nul dans beaucoup de domaines d'ailleurs, et ce qu'on comprend surtout, c'est qu'il gagnait son argent en attaquant des caravanes. Toutes les batailles du prophète qui sont encensées en islam, la bataille de Badr, la bataille de Uhud, c'était en réalité des attaques de vol, de pillage, justifiées par l'islam et la conquête. Mais c'était des batailles de vol et de pillage à la base. C'est un voleur. Voilà pourquoi il était détesté par les Quraychites. Et voilà pourquoi son propre oncle le détestait. La personne de sa famille la plus proche de lui le détestait. Et le tafsir de Al-Jalalayn nous dit que « porteuse de bois » fait référence à la femme de Abu Lahab. Parce que dans la sourate, on a aussi Allah qui insulte la femme de Abu Lahab de « porteuse de bois ». Et le tafsir de Al-Jalalayn nous dit que « et porteuse de bois » fait référence à la femme de Abu Lahab, l'oncle du prophète, Jamil. La porteuse lut « hamalatu » ou hammalata, de bois de chauffage, de cactus et de ronces qu'elle utilisait pour jeter sur le chemin du prophète. Et c'est là qu'on voit que l'islam n'a rien d'universel. Les gens qui disent l'islam est universel, c'est une religion qui est venue, qui est descendue pour l'humanité, qui a été révélée pour le bien de l'humanité, ça n'a rien d'universel. Ça raconte du début à la fin les bagarres d'un bédouin du désert avec sa tribu et avec sa propre famille. En fait, le Coran, c'est le voici du désert. Ça raconte des gossips. C'est le voici du désert raconté dans une langue médiévale que personne ne comprend. C'est un magazine de gossips, le Coran. Et cette langue arabe médiévale très complexe, que même certains arabes de l'époque ne comprenaient pas, parce que selon les recherches sémantiques, cet arabe viendrait du nord de la péninsule arabique, alors que le Coran et l'islam se développent dans le sud de la péninsule arabique. Et donc il y a une espèce d'incohérence entre le style de la langue et l'arabe qui était appelé dans la région. C'est pour ça qu'on suppose que toutes les pistes historiques, cette fois-ci, supposent que le Coran aurait plutôt été écrit quelque part en Syrie, dans le nord de la péninsule, et qu'on a inventé ce mythe de la Mecque bien plus tard. Et donc cette langue complexe qui contient notamment des mots de syriaque que les Arabes eux-mêmes ne comprenaient pas, ajoutée au cantique. Vous savez que le Coran a été écrit à la base comme un cantique. C'est pour ça que les imams aujourd'hui, lorsqu'ils récitent les sourates, on a l'impression qu'ils chantent. Ils font ce qu'on appelle le tajwid. Et tout ça a aidé à camoufler les atrocités qu'il y a dans les textes. Pendant 14 siècles, les gens ont récité des atrocités sans ne rien comprendre. Ils sont là avec la voix nasale. Et le mec, il sait pas qui dit « sois maudit Abu Lahab, toi et ta femme, la porteuse de bois ». Il récite la sourate où Allah dit « Zanim, utullin, badadalika, zanim, bâtard, fils de pute ». Les gens sont là, bismillah et rahmaninahim, oh bâtard, oh fils de pute, sadakanahou nadim. Et ils sont là, et c'est bon, j'ai fait ma prière. Ah, j'ai gagné des hasanat. Ah, je vais au paradis. Ah, je vais aller au paradis. D'où tu vas aller au paradis, mec? D'où tu vas aller au paradis? Tu viens de réciter des gros mots que tu ne comprends même pas. T'as des gens qui font la prière avec cette sourate. Ils font la prière avec sourate al-Kalam, dans laquelle Allah traite sa créature de zanim, de fils de pute. Et les gens, ils sont là, ah, j'ai gagné des hasanat. Ah, c'est beau, la spiritualité, c'est beau. Ils lisent Sourate Al-Masad. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui font la prière avec cette sourate parce qu'elle est courte. J'imagine du moins 5 versets, c'est très facile à retenir. Vous savez que la majorité des musulmans ne sont pas des arabisants. Et du coup, c'est compliqué de faire la prière avec des sourates très très longues. Donc ils prennent des sourates courtes, simples, faciles à mémoriser. Donc beaucoup de gens font la prière avec cette sourate. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Et ils savent pas que c'est une insulte en fait. Ils pensent que c'est de la spiritualité, que c'est beau. Ils sont là, bismillah, ilhaman, ilhaim. Non, 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 non. Tabba, tada, tabou, nabin, wataba, tada, kanahu, nadim. Et ils pensent qu'ils vont aller au paradis. D'où tu vas aller au paradis? Tu viens juste d'insulter l'oncle du prophète. Tu crois que t'étais en train de chanter un cantique spirituel? C'est que tes gros mots, le Coran. Tu crois vraiment que t'étais en train de chanter un truc incroyable? Tu vas pas au paradis, mec. Tu vas nulle part. Ce que t'as récité, c'est le voici du désert. T'as récité la bagarre entre le prophète et son oncle. Son oncle qui lui dit, Mohammed, tu nous casses les couilles. T'es une racaille, t'es un voleur. Tu passes ton temps à attaquer des caravanes. Et après, tu nous réunis pour nous dire, est-ce que vous me faites confiance? Est-ce que vous me faites confiance si je vous dis qu'on va nous attaquer demain? Qu'est-ce que tu nous casses les couilles, Mohammed? Son oncle devait avoir un boulot, il devait faire quelque chose. Il voit son neveu casser les couilles à la terre entière. Il est sorti, il lui a dit, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. C'est tout. Cette sourate, ça raconte que ça. Et puis à la fin, bien sûr, t'insultes aussi sa femme, porteuse de bois. Et c'est là que tu comprends que ce message ne peut pas émaner du créateur de l'univers. Ce n'est pas possible. Pourquoi insulter une femme de porteuse de bois? C'est insulter les gens de petite condition. Oui, elle porte du bois. D'accord, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Accessoirement, elle devait jeter des petites ronces pour emmerder Rasoul Allah, mais il avait bien mérité. Une petite crotte de nez du désert d'Arabie. Mais à part ça, le créateur de l'univers qui s'occupe de ce genre de choses, le créateur de l'univers, il insulte de pauvres humains, de misérables humains, d'enfants illégitimes. Alors oui, le gars qui a été insulté dans Sourate Al-Kalam, peut-être que c'était un enfant illégitime, mais c'est pas de sa faute. Et le Coran, c'est comme ça qu'il faut le voir et c'est comme ça qu'il faut le démystifier. C'est le magazine Voici de la Mecque. Il n'y a rien d'universel. C'est la gestion par texte interposé des bagarres et des conflits de Mohammed Rasulallah, le prophète de l'islam. Il veut attaquer des juifs de Médine, il veut les racketter et il refuse, il s'envoie une sourate pour les insulter. Il veut niquer sa belle-fille, il s'envoie une sourate. Il veut niquer une petite fille de 6-9 ans, il s'envoie une sourate. Il veut s'autoriser à violer les captifs de guerre, il s'envoie une sourate. Il veut se bagarrer avec son oncle, il s'envoie une sourate. Il veut insulter un notable de Quraysh, il s'envoie une sourate. Et pour les gens qui disent le Coran est universel, il a été envoyé pour l'humanité, que va penser un Indien d'Amérique, par exemple, de ces gossips? Imagine, tu débarques en Amérique. Imaginons même, on va faire un exercice mental, imaginez que les missionnaires chrétiens ne soient pas les premiers à être arrivés en Amérique et que c'était plutôt les musulmans. Tu débarques avec ton livre, le Coran, et t'essayes de convertir les Indiens d'Amérique. Et tu leur fais la traduction. Alors là, c'est le prophète qui nique une petite fille de 6 ans. Là, c'est le prophète qui a envie de niquer sa belle-fille. Et en fait, bon, elle était mariée à son fils, hein, donc ça la foutait mal à son fils adoptif, donc il a bricolé un petit truc. Là, c'est le prophète qui se bagarre avec son oncle, Abu Lahab, et l'Indien, il est là, c'est qui ça, Abu Lahab? Ah, c'est un bédouin du désert. Et pourquoi tu me racontes ça? Ah ben, c'est Allah. C'est Allah qui raconte ça, c'est le créateur de l'univers. Donc, il te dit, voilà, deux bédouins du désert se bagarrent. Et l'Indien, il est là, oui, et ben, il se bagarre. Et, non mais passons, t'as rien compris, je vais te raconter autre chose. Donc ces gens-là qui vivent dans une harmonie parfaite avec leur environnement, tu leur ramènes le magazine Voici de la Mecque, qui s'appelle le Coran, qui raconte du début à la fin des bagarres, des bédouins du désert, des shikayat, des problèmes entre un gars qui s'appelle Mohammed Rasulallah, dont on ne connaît absolument rien, qui n'est mentionné que 4 fois dans le Coran, et les notables de Quraysh, sa famille, etc. Tu comprends que ça n'a rien d'universel. C'est des bagarres locales. Ça n'a rien d'universel. Ça ne concerne aucune autre culture. Ça ne concerne que les bédouins du désert. Si Mohammed vivait parmi nous, il aurait eu d'autres problèmes. Il aurait eu des gossips avec les Instagrammeuses, avec les influenceurs. Si Mohammed Rasulallah vivait parmi nous, il aurait par exemple écrit une sourate qui insulte Kim Kardashian. Comme ça, gratos. Hein. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pour ceux qui disent on ne peut pas reproduire le Coran, c'est un livre divin. Non, voilà. Voilà ce que, si Rasulallah vivait parmi nous, voilà ce qu'il aurait fait. Bismillahirrahmanirrahim, la sourate du pétard, que soit maudit le gros cul de Kim Kardashian. Qu'elle soit maudite, elle et son mari, le colporteur de musique infâme. Sadakallahu halalu haladim. Je suis certain que si Rasulallah vivait parmi nous, il se serait clashé avec tous les influenceurs. Il se serait clashé avec Kim Kardashian. Il aurait sorti une sourate contre Kim Kardashian. Il aurait été là. Bismillahirrahmanirrahim, j'ai reçu une révélation. Je reviens de ma grotte. Chut, ta gueule. J'ai reçu une révélation d'Allah. La sourate du pétard. Bismillahirrahmanirrahim. Que soit maudit le gros cul de Kim Kardashian. Qu'elle soit maudite, elle et son mari. Le colporteur de musique infâme. Sadakallahu halalu al-hadim. Ce n'est que ça le Coran. C'est-à-dire que ce verset, la sourate du pétard ou la sourate du gros cul et la sourate du massad qui fait 5 versets, c'est exactement la même chose. C'est la même chose. Le Coran, c'est le voici, c'est le magazine Voici de la Mecque. C'est un recueil de gossip. Et voici un florilège des autres sourates où le créateur de l'univers insulte ses créatures. On ne pourra pas toutes les faire, il y en a tellement dans le Coran. Je vous ai dit, il y a un fichier Excel entier qui recense les insultes, mais je vais vous donner les plus fleuries, celles que j'ai vraiment trouvées les plus intéressantes. Sourate 5, verset 60, dit « Puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire en fait de rétribution auprès de Dieu ? Celui que Dieu a maudit, celui qui a encouru sa colère et ceux dont il a fait des singes, des porcs et de même celui qui a adoré le Tarout. Ceux-là ont la pire des places et sont les plus égarés du chemin droit. » Donc là, Allah nous dit qu'il a fait, encore une fois, des mécréants, des singes, des porcs, etc., etc. Là, il les traite d'animaux. De toute façon, dès que t'es contre la parole d'Allah, t'es un singe, un porc, un chien, etc., etc. Sourate 2, verset 65. La sourate 2, c'est la sourate al-Baqara, de la vache, la plus longue du Coran et la deuxième. Vous avez certainement connu ceux des vôtres qui transgressèrent le Shabbat. Eh bien, nous leur dîmes, soyez des singes abjects. Là, vous avez compris qu'il traite les juifs de singes, comme toujours. Le nombre de crottes de nez contre les juifs dans le Coran, c'est un truc de malade. Ça alterne entre insulter les Korachites, insulter les juifs, insulter son oncle, insulter sa tribu, hop, insulter les juifs. Il y aura toujours 2-3 bagarres avec un Korachite, hop, une bagarre avec un juif. 2-3 bagarres avec un Korachite, une bagarre avec un juif. Il y a une espèce d'alternance comme ça. Et là, j'ai essayé de comprendre, pour le coup, je suis allé voir le tafsir, pourquoi il insulte ceux qui ont transgressé le Shabbat, c'est quoi cette histoire de singe? Et le tafsir de Ibn Kathir nous dit « Dieu fait rappeler aux Juifs l'histoire de ceux qui ont transgressé les ordres divins le jour du Shabbat, où ils devaient se consacrer au culte sans faire aucun travail pour acquérir quoi que ce soit. Cette histoire qu'ils connaissaient déjà, lorsque Dieu transforma les insoumis en singes abjects. » Là, c'est un autre délire du Coran. Il insulte les Juifs pour ne pas avoir respecté le Shabbat, mais il n'y a pas le Shabbat dans le Coran. Tu vois, il devrait s'adresser aux contemporains, pas ressortir des vieilles histoires, je vous ai transformé en singe. Mais ça, c'est encore un autre délire du Coran. C'est juste des insultes gratuites, en fait, du début à la fin. C'est là où vous comprenez que le Coran n'a aucune utilité. Ceux qui disent « j'ai appris des choses dans le Coran », non, t'es un menteur. T'as rien appris. Dis-moi quel est l'intérêt pour ta vie, pour ta spiritualité, pour ta grandeur d'esprit. Quel est l'intérêt de ce verset? C'est quoi l'intérêt? Qu'est-ce que t'as appris? Le créateur de l'univers aurait transformé des juifs qui n'ont pas respecté le Shabbat en singes. Bravo. Ça change quoi à ta vie? T'es plus heureux, t'es plus instruit, t'es plus spirituel, t'es plus intelligent, t'es plus apaisé, tu dors mieux la nuit? Tu dors mieux la nuit avec l'histoire du créateur de l'univers qui a transformé des gens en singes? Le Coran, c'est de la diarrhée du début à la fin. C'est insupportable. C'est insupportable. Je comprends pas les gens qui disent « Moi, je lis le Coran, c'est mon livre de chevet. » D'où c'est ton livre de chevet? C'est de la diarrhée, de la merde, de la bagarre des bédouins du désert, incompréhensible du début à la fin. C'est pas mieux qu'un magazine de gossip. La seule différence, c'est que le magazine de gossip, tu le comprends. Il est écrit dans une langue que tu comprends. Le Coran, il est écrit dans une langue que tu ne piges pas. Tu ne comprends rien. Les Arabes eux-mêmes ne comprennent pas le Coran. C'est un arabe médiéval, c'est un arabe bricolé, c'est même pas un arabe propre. C'est un arabe avec des mots de syriaque, d'hébreu, des bricolages, des mélanges. Du point de vue, ou d'un point de vue linguistique, le Coran est un bordel monstre. Les gens qui colportent des informations du type « c'est parfait, ça ne peut pas être copié », vous êtes des menteurs. C'est de la merde du début à la fin. Dites-moi ce qu'il y a de grand dans ce verset. Je vais vous le relire une fois de plus. Dites-moi ce qu'il y a de grand dans ce verset. Vous avez certainement connu ceux des vôtres qui transgressèrent le Shabbat. Eh bien, nous leur dîmes, soyez des singes abjects. Sadakallahu halali halala. Dis-moi ce qu'il y a de bon là-dedans. Qu'est-ce que t'as appris? T'as fait tes ablutions, tu t'es préparé pour la prière, ah là 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 là, je vais gagner des hasanats, je vais aller au paradis. Soyez des singes abjects. Sadakallahu halali hal. N'importe quoi. Vous êtes des menteurs quand vous dites que vous comprenez, que ça vous élève spirituellement. Vous êtes des menteurs. Si cette histoire de singe t'élève spirituellement, moi et toi n'avons plus rien à faire ensemble. C'est ça le point auquel on va arriver. Si les gens continuent dans ce délire, si les gens continuent à penser que l'islam c'est la solution, que le Coran apporte des solutions, on va arriver à la conclusion que nous, et par nous j'entends les gens dotés de raison, d'esprit critique, de logique, de rationalité, on va arriver à la conclusion qu'on ne peut plus vivre avec vous. Parce que vous vivez dans une dimension parallèle, vous vivez dans une autre civilisation, vous vivez parmi les tribus bédouines du 7e siècle d'Arabie. Tribus elles-mêmes qui rejetaient ces textes. C'est-à-dire que les premiers Quraychites avaient plus de bon sens que les islamistes d'aujourd'hui. Les premiers Quraychites, les premiers qui ont entendu cette révélation du Coran, disaient au prophète du matin au soir d'aller se faire enculer, de prendre ces textes de merde et de partir. Et ils l'ont chassé à Médine. Les premiers Arabes avaient compris que ce texte était de la merde, que c'était un gossip qui racontait les bagarres du prophète. Et aujourd'hui, au 21e siècle, avec toute la science qu'on a, avec toute la technologie, toute l'information, avec Internet, en un seul clic, tu peux accéder à 5, 6, 10 tafsirs différents, faire des comparatifs, copier dans ChatGPT, demander des résumés. La quantité d'outils, de capacités de recherche qu'on a aujourd'hui est phénoménale. C'est-à-dire qu'on n'a aucune excuse pour être ignorant. Et malgré ça, certains sont plus ignorants qu'un bédouin du 7e siècle de la péninsule arabique qui n'avait aucun outil à sa disposition et qui pourtant avait compris que c'était de la merde. L'oncle du prophète, Abu Lahab, qui le voyait du matin au soir, avait compris que ce gars était un voyou, un petit merdeux, un attaqueur de caravane. Pourtant, c'est un bédouin. Abu Lahab, c'est pas un scientifique, c'est pas un chercheur éminent, c'est pas un linguiste, c'est pas un spécialiste de la sémantique. Et il avait compris que le Coran, c'était de la merde. Il lui dit, Mohammed, c'est pour ça que tu nous as réunis? Gros dégueulasse, c'est pour ça que tu nous as réunis? Tu nous fais perdre notre temps? Et ça me rend dingue qu'avec les technologies dont on dispose, les outils dont on dispose au 21e siècle, t'as des gens qui aujourd'hui ne sont pas capables de faire cette recherche. Ça me rend dingue. Autre sourate et autre insulte à Taouba, la sourate 9, verset 28, qui nous dit « Ô vous qui croyez, les associateurs ne sont qu'impureté ou najas, saleté, ordure, en arabe. Qu'il ne s'approche plus de la mosquée sacrée après cette année-ci. » Donc là encore une fois, une autre insulte du créateur de l'univers qui insulte ses propres créatures de saleté, najas. Et vous savez qu'au passage, sourate At-Taouba, c'est la sourate la plus violente de l'islam. C'est le réacteur nucléaire du terrorisme. Il n'y a pas un seul terroriste sur Terre qui ne connaisse pas sourate At-Taouba. Pourquoi ? Parce que c'est celle-là qui incite au meurtre, c'est celle-là qui incite au passage à l'action. Et je vais vous lire le passage suivant, parce que beaucoup de gens parlent du verset 28 qui traite les mécréants d'impureté, de saleté, mais c'est pas le pire, parce que l'autre, juste après, donc le verset 29, appelle au passage à l'action. Et voilà ce qu'il nous dit, « Combattez ceux qui ne croient ni en Dieu, ni au jour dernier. » Combattez ceux qui ne croient ni en Dieu ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Dieu et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation, donc la jizya, par leurs propres mains après s'être humiliés. Ce passage entre le verset 28 et 29 de Sourate At-Tawbah, c'est terrifiant. C'est terrifiant, c'est un truc qui devrait être interdit. Donc ça commence gentiment par « vous êtes des ordures », voilà les mécréants, vous êtes des saletés. Et ensuite, ça incite à combattre ceux qui ne croient ni en Dieu ni au jour dernier, y compris parmi les gens du livre. Donc les chrétiens et les juifs sont intégrés à cet appel au combat. Ou du moins, il faut les combattre également. Jusqu'à ce qu'ils versent la capitation, donc la jizya, l'espèce de taxe islamique pour qu'on te foute la paix. Quand tu vis sous le califat, on va t'imposer un impôt et si tu le payes, eh bien tu auras la vie sauve. Mais le Coran est tellement pervers, tellement sale, qu'il précise que tu dois payer après t'être humilié. C'est-à-dire que tu dois payer en état d'humiliation. La perversité de ce texte me sidère. Parce que l'appel à la jizya ou à payer l'impôt se suffit à lui-même. Quelqu'un qui vit sous ta domination et qui paye l'impôt, il est suffisamment humilié. T'as pas en plus besoin de forcer l'humiliation. Mais le Coran est un logiciel, un dogme tellement sale, tellement pervers, tellement tordu, tellement méchant, tellement agressif, avec une volonté de nuire telle qu'ils vont te faire payer la jizya, donc l'impôt islamique, en état d'humiliation. Ça ne suffit pas de le payer. C'est-à-dire que les terroristes ou les islamistes qui veulent appliquer ce verset ne vont pas se contenter de te faire payer l'impôt si jamais un jour le califat est appliqué en Europe, que la charia est appliquée. Ne croyez pas qu'on va juste payer l'impôt. Non, on va payer l'impôt en état d'humiliation pour se conformer à la sourate. Vous n'allez pas me faire croire que c'est le créateur de l'univers qui a pondu ce truc. Vous n'allez pas me faire croire que c'est le créateur de l'univers qui parle. On continue avec notre festival, cette fois-ci la sourate 7, verset 176. « Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements, mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Il est semblable à un chien qui allaite si tu l'attaques et qui allaite aussi si tu le laisses. Tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges nos signes. Eh bien, raconte le récit, peut-être réfléchiront-ils. » Là encore une fois, un passage, c'est plein de passages semblables dans le Coran, c'est pour ça que c'est insupportable. T'insultes les mécréants une fois, deux fois, trois fois, bon ça va, on a compris, t'aimes pas les mécréants, mais sourate après sourate comme ça, tout le Coran c'est que ça, c'est indigeste, c'est insupportable. Et là, après les singes, on a les chiens, voilà, ceux qui ne croient pas à notre message et qui ne croient pas au message de Rasulallah sont semblables aux chiens qui allaitent. Encore une insulte gratuite du créateur de l'univers. Sourate 2, verset 171, une autre insulte. « Les mécréants ressemblent à du bétail, auquel on crie et qui entend seulement appel et voix confus. Sourd, muet, aveugle, ils ne raisonnent point. » Là, c'est le créateur de l'univers qui t'insulte, et avec des insultes, je dois dire, là c'est bête, méchant et gratuit. Pourquoi insulter les gens de sourds, muets, aveugles, sachant qu'il y a des gens en situation de handicap? Pourquoi tu dis que ceux qui ne croient pas sont semblables à des sourds, ou à des muets, ou à des aveugles? Ça veut dire que les gens qui ont ces handicaps sont mauvais? Ça veut dire que c'est Allah qui les a punis? Comment comprendre ce verset? Les mécréants sont semblables à du bétail. Alors déjà, il aurait pu s'arrêter là. Moi, je trouve que la phrase est claire. Les mécréants sont semblables à du bétail. C'est bon, tu peux finir la sourate. Sadakallahu, halalou, aladim. C'était bien. Mais ça suffit pas. C'est pour ça que je vous dis que c'est une idéologie perverse. C'est-à-dire que faut enfoncer le clou à chaque fois. Voilà, c'est du bétail, mais j'ai pas encore fini. C'est du bétail auquel on crie, mais qui entend seulement appel et voix confus. Sourds, muets, aveugles, ils ne raisonnent point. la méchanceté de ce truc. Et c'est assez intéressant parce que, comme je vous le disais au début de ce podcast, c'est le type d'insulte qu'utilisent les défenseurs de l'islam. C'est-à-dire que lorsque vous critiquez l'islam, les défenseurs de l'islam utilisent les mêmes arguments. T'es un sourd, tu ne vois pas, t'es un aveugle. Il y a un qui m'avait même écrit un truc du genre « t'es l'observateur qui ne voit pas » ou « t'es l'observateur aveugle ». Je me suis dit « mais pourquoi autant de méchanceté ?» Tu vois, si t'as des arguments... Donne-moi tes arguments, tu vois, j'ai critiqué ton texte avec des arguments solides, je prends 3, 4, 5 tafassirs différents que je croise, je te donne des explications, des plus grands exégèses, je t'explique les choses de manière quasi scientifique. Du moins, la méthode est scientifique. Et toi, tu me réponds par une insulte. Et j'ai compris petit à petit d'où venaient ces insultes. C'est les insultes d'Allah que les musulmans ou que les islamistes ou que certains musulmans, pour ne pas mettre tout le monde dans le même panier, utilisent pour vous insulter. Ils ont appris de Allah. C'est lui qui leur a appris à insulter. Tu m'étonnes qu'ils utilisent après ce genre d'insultes. Sourd, aveugle, muet, le niveau d'intolérance en islam, je suis choqué. Je suis choqué. Intolérance envers tout le monde. Les mécréants, les juifs, les chrétiens, les femmes, les homos, les aveugles, les muets, les sourds, les handicapés. Tout le monde y passe. Le Coran insulte tout le monde. C'est incroyable. Le niveau de méchanceté dans ce texte, je suis sidéré. Et surtout, vous comprenez de quoi on parle ? Vous comprenez de quoi on parle ? Le créateur de l'univers, après avoir créé les galaxies, les étoiles, les trous noirs, les planètes, la gravité, le temps, l'eau, la vie, les particules, l'oxygène, l'ADN, la conscience, s'est retranché dans un coin de l'univers, à 46 milliards d'années-lumière d'ici, et a commencé à écrire des livres dans lesquels il insulte ses créatures. Allah est une racaille en casquette Lacoste à l'autre bout de l'univers. Il est là, tu vois, il a fini sa création, il a terminé, c'est bon. Sadaq Allahou l'Adhim, c'est fini. Puis après, il s'est mis comme ça à 46 milliards d'années-lumière. Hé ! Et Zanim ! Et mes crayons ! Et bâtard ! Hé ! Abou Lahab ! Toi et ta femme ! La porteuse de bois ! Sois maudit ! Hé ! Et mes crayons, et Najas, ordure, saleté. Hé, mes crayons, t'es un singe, un chien, un halouf. T'es un chien qui allait. Et bâtard, et zanim, et fils de pute. Du début à la fin, vous imaginez de quoi on parle? Et encore, j'ai pas le temps de tout vous faire. J'ai pas le temps de prendre le fichier Excel et de vous balancer les, je sais pas, les 60 versets où ça insulte. Parce que c'est très répétitif. C'est ça qu'il faut comprendre. Une fois que t'as compris zanim, chien, bâtard, machin, bon. Une fois que t'as compris tout ça, après ça se répète. Tu trouveras singe 10 fois, tu trouveras chien, cochon, ça tourne en rond, ça tourne en boucle à un moment. Une fois que t'as compris les insultes de base, dis-toi que c'est ça, x50 dans le Coran. Pas besoin de vous passer tous les versets insultants, vous avez compris l'idée. Et finalement, lorsqu'on analyse le vocabulaire d'Allah, on comprend que ce n'est pas le créateur de l'univers qui parle. C'est Mohammed qui parle. C'est Rasulallah. C'est les mêmes insultes, les mêmes obscénités que l'on retrouve dans les hadiths. La même méchanceté, le même côté vicieux, bagarreur, agressif qu'on retrouve dans les hadiths et qui émane de Rasulallah, hein, du prophète de l'islam, eh bien on le retrouve dans le Coran. C'est là qu'on comprend que Allah n'est que l'ami imaginaire du prophète et que le Coran n'est que son magazine voici, son magazine de gossip, son réseau social par lequel il insultait les gens. Ce n'est ni plus ni moins que ça. Et pour vous prouver la chose, pour l'expliciter un peu plus, je vais vous sortir un hadith, mais c'est une pépite. C'est une pépite, celui-ci, il faut le noter. Un hadith sahih de la plus haute authenticité. Chaîne de transmission validée par l'imam Al-Albani, la référence Al-Adab Al-Mufrad 963. Et voilà ce que nous dit ce hadith, accrochez-vous bien parce que c'est une dinguerie. C'est le hadith le plus dingue que j'ai jamais lu. En fait, à chaque fois que je lis un hadith, je dis c'est le hadith le plus dingue que j'ai jamais lu et j'en découvre un autre qui est pire à chaque fois. Écoutez bien ce que nous dit celui-ci. En vérité, j'ai entendu le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, dire « Quiconque s'attribue une lignée, une attribution de Jahiliya, alors dites-lui d'aller mordre le zboub de son père, l'organe génital de son père, et ne parlez pas au figuré, c'est-à-dire soyez explicite. » C'est un hadith authentique dans lequel le prophète de l'islam te dit, donc Muhammad Rasulallah qui parle, si quelqu'un s'attribue une lignée de Jahiliya, la Jahiliya c'est la période obscurantiste avant l'avènement de l'islam, supposément obscurantiste, parce qu'en fait c'était une période normale du 7e siècle. C'est le dogme islamique qui nous explique que c'était l'obscurantisme et l'islam est venu apporter la paix, la sagesse, etc. Mais quoi qu'il en soit, le prophète dit « Quiconque s'attribue une filiation à cette période, la Jahiliya, dites-lui d'aller mordre la bite de son père. » Écrit noir sur blanc dans un hadith en arabe. « Dites-lui d'aller mordre le zboub de son père. » Donc les parties génitales, l'organe génital de son père. Et le prophète continue, parce que vous allez me dire « L'observateur, c'est vulgaire. » C'est vulgaire quand même ce que tu dis. Mais moi, je ne fais que respecter les consignes de Rasulallah. Parce que dans le hadith, il te dit « Et ne parlez pas au figuré. » C'est-à-dire, soyez explicite, soyez direct. N'essayez pas d'utiliser un vocabulaire plus sophistiqué pour parler de parties génitales. Soyez explicite. Donc, si c'est le zboub, dites le zboub. Donc, quiconque s'attribue une lignée de Jahiliya, alors dites-lui d'aller mordre le zboub de son père. Voilà ce que nous dit Rasulallah dans un hadith de la plus haute authenticité. Al-Adab al-Mufarad, 963. Les mecs, la période où ces textes étaient planqués, c'est fini. C'est terminé. La savate monstrueuse que vous allez vous prendre va être monumentale. Les menteurs qui nous parlaient de la religion de la paix, les menteurs qui nous parlaient de spiritualité, t'ouvrent le Coran, c'est de la merde du début à la fin, putain, c'est voici, c'est un magazine de gossip du début à la fin. T'ouvres les hadiths, c'est pas mieux, putain, tu cherches dans les hadiths saïd de l'inspiration comme ça, tu te dis, ah je vais ouvrir un peu pour dire, je suis en manque d'inspiration, je suis en train de devenir un koufar, j'ai besoin de lire un hadith pour me rassurer, pour entendre le message de Rasulallah. Tiens, je vais ouvrir celui-ci. Ah, il a l'air pas mal celui-ci. En plus, il est sahih, il est authentique. Ah, en plus, chaîne de transmission validée par l'imam Al-Albani. Mashallah. Référence Al-Adab Al-Mufrad 963. Tiens, qu'est-ce que ça nous dit ? Quiconque s'attribue une lignée, une attribution de Jahiliya, alors dites-lui d'aller mordre le zboub de son père. Ah, c'est beau, machallah, c'est beau. Putain de bordel de merde. Et pour finir, je vais vous citer un autre hadith de Rasulallah. Celui-ci, il est drôle. Il est drôle. En fait, il n'est pas vraiment drôle, il faut avoir de l'humour, parce que c'est un hadith raciste. La première fois que je l'ai lu, je me suis dit, comment il peut encore y avoir des Africains musulmans ? Comment il est possible que des Africains adhère à l'islam, qui est une religion profondément raciste. Je vais vous lire le hadith al-Bukhari 7142, et accrochez-vous bien, voilà ce que nous dit ce hadith. Le messager d'Allah a dit « Vous devriez écouter et obéir à votre dirigeant, même s'il était un esclave éthiopien, donc noir, dont la tête ressemble à un raisin sec. » Le prophète de l'islam traite les Éthiopiens, par extension les Africains, par extension toutes les personnes qui ont la peau un peu foncée, de têtes de raisin sec. Je me suis dit, mais comment peut-il y avoir des Africains musulmans au Mali, au Sénégal, dans bien d'autres pays africains, quand cette religion est profondément raciste ? Votre propre prophète, le meilleur des hommes, envoyé par Dieu, vous traite d'Éthiopien à la tête de raisin sec. Vous comprenez de quoi on parle ou pas? Vous comprenez le racisme viscéral et primaire inhérent à cette religion ou pas? Vous comprenez le mépris de ce texte ou pas? Ça commence par « vous devriez écouter et obéir à votre dirigeant ». Ok, très bien, tu peux adhérer ou pas, il y a un petit côté soumission, pourquoi je devrais obéir à mon dirigeant, je sais pas. S'il ne me plaît pas, je le change. Ça se raisonne pas comme ça, l'autorité. L'autorité, c'est un mandat que tu donnes à quelqu'un pour gérer les choses, mais si il ne remplit pas sa mission, tu le dégages, tu mets quelqu'un d'autre. Mais admettons, vous devriez écouter et obéir à votre dirigeant, très bien, même s'il était un esclave éthiopien dont la tête ressemble à un raisin sec. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut avoir un peu d'humour. Moi, personnellement, ça m'aurait fait rire. J'ai de l'humour. Quelqu'un qui m'aurait traité de tête de raisin sec, j'aurais rigolé. Mais à la base, c'est profondément raciste comme texte. Et les gens sont là, oui, on va faire une manifestation contre l'islamophobie et le racisme, mais l'islam est raciste. Tu ne peux pas faire une manifestation contre l'islamophobie et le racisme. L'islam est profondément raciste. Tu peux faire une manifestation contre le racisme et contre l'islam, parce que c'est la même chose. Un texte noir sur blanc qui te dit que l'Africain ressemble à une tête de raisin sec, qu'est-ce que tu veux en faire? Sans parler du fait que l'esclavage est légal en islam, que la traite arabo-musulmane a duré 13 siècles, que les esclaves étaient castrés, qu'on leur coupait les testicules pour éviter qu'ils se reproduisent, etc. Donc l'islam est un logiciel profondément raciste et esclavagiste. Donc tu ne peux pas faire une manifestation contre le racisme et l'islamophobie. Faut que tu choisisses. Ou t'es pour l'islam, donc t'es pour l'esclavage et le racisme, ou t'es contre l'islam et t'es contre l'esclavage, le racisme, la pédophilie et toutes les choses qu'autorise l'islam. C'est une religion profondément raciste dans le texte. Et si tu en doutes, va voir ton imam, tu prends le Sahih al-Bukhari que je viens de te lire et dis-lui « explique-moi ça ». Explique-moi pourquoi le prophète parle de moi en tête de raisin sec. Et lorsque j'ai lu tout ce corpus, lorsque je me suis intéressé au texte islamique, je me suis dit, mais Rasulallah a inspiré le Troisième Reich. L'islam a inspiré le Troisième Reich. Je pense que Hitler n'a jamais voulu l'avouer, mais sa référence, c'est le prophète de l'islam. C'est Rasulallah. Tu m'étonnes qu'il soit d'ailleurs allé voir le mufti de Jérusalem. C'est pour prendre des notes. Il a dû lire le Coran, les hadiths. Hitler a dû lire le Coran, les hadiths, et il s'est dit, Mein Kampf à côté, c'est pas assez sérieux. C'est pas assez violent. Mein Kampf, c'est un truc pour exciter des pucelles. Mais à côté du Coran et des hadiths, c'est rien. Dans le Coran, entre l'appel au meurtre des juifs, des chrétiens, des mécréants, des apostats, des homosexuels, la légalisation de la pédophilie, les menaces, les insultes en tout genre, bâtards, zanim, singes, chiens, halouf, tête de raisin, etc., le Führer s'est dit, là on est bon. Là, je viens de me former pour la destruction et la guerre totale. Il rencontre le mufti de Jérusalem, après il met Mein Kampf au placard. Comme je vous le dis, comparé au Coran et aux atrocités qu'on trouve dans les hadiths, Mein Kampf, c'est tout juste bon pour exciter des pucelles. Et Hitler va certainement prendre des cours sur comment faire chier les juifs chez le mufti de Jérusalem. Parce qu'il y a quand même une sacrée expérience, un niveau faire chier les juifs, Rasulallah, il en connaît un rayon. Il a chopé la tribu des Beni Qoraïza, il les a alignés devant une tranchée, 700 personnes, entre 700 et 900 personnes selon le récit islamique, et il les a égorgés un par un du matin au soir. Tous ceux qui avaient du poil pubien qui avait poussé, il les a exterminés. L'extermination intégrale de tribus juives, bien avant le Troisième Reich, bien avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est une notion qui existe déjà dans le Coran et dans les hadiths et dans la Sirat Rasulallah, dans la Sirat d'Ibn Ishaq et dans plein de textes islamiques. Sur la question juive, le Troisième Reich et le Coran, le Troisième Reich et l'islam, même combat. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vous réfère à ma vidéo « L'hyperviolence en islam » où je parle en détail de cet épisode où le prophète a égorgé intégralement la tribu des Bani Qoraïza. Terrifiant, un récit, un conte terrifiant. Lorsqu'on lit le truc, la mise en scène, le spectacle sur une place de Médine, la tranchée qu'il a creusée, la façon dont il les a alignés, l'âge de ces gamins qu'il a égorgés, parce que ceux qui avaient du poil pubien n'étaient pas forcément des adultes. Tu peux avoir du poil pubien à 10 ans, j'en sais rien. Donc il a égorgé tous ceux qui avaient un poil pubien qui avait poussé. Et toute la journée, il a fait couler le sang dans cette tranchée. Un récit atroce. Du massacre de la tribu des Beni Koraïza, ou Bani Koraïza, qui est raconté comme ça fièrement dans les hadiths, dans la sunna, dans la sira de Rasulallah, du prophète de l'islam, le meilleur des hommes. Et pour moi, il est inconcevable que la puissance, si elle existe, la force, si elle existe, qui a créé l'univers, qui est à l'origine de l'univers, puisse écrire des atrocités pareilles. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Le créateur de l'univers ne va pas s'intéresser à Abu Lahab, l'oncle du prophète, pour aller l'insulter. Il ne va pas s'intéresser à sa femme qui porte du bois. Il ne va pas s'intéresser à un enfant illégitime pour l'insulter de Zanim, bâtard, fils de pute. Le créateur de l'univers ne devrait pas s'intéresser à ce genre de choses. C'est du gossip, c'est de la bagarre entre des individus qui appartiennent à une tribu du désert d'Arabie qui s'appelle Quraysh. Ça n'a rien d'universel. Ça a tout de local, ça a tout de bédouin, ça a tout d'histoire qui se passe dans le désert, ça a tout d'histoire qui se passe dans un environnement du manque, dans un environnement difficile, dans un environnement de guerre, un environnement négatif, un environnement de fin du monde, ça, oui, mais ça n'a rien d'universel. Ces histoires ne concernent personne. Les bagarres du désert d'Arabie ne concernent ni l'Africain, ni le berbère d'Afrique du Nord, ni l'Indien d'Amérique, ni l'aborigène d'Australie, ni l'Européen, ni l'Esquimau. Ça n'intéresse personne. Ces bagarres du désert d'Arabie ou ces bagarres des tribus du désert d'Arabie n'intéressent personne. Le Coran n'a rien d'universel. Et voilà ce que je souhaitais dire aujourd'hui, et voilà la conclusion à laquelle on peut arriver. Lorsqu'on lit les insultes d'Allah, sa méchanceté, son agressivité, on comprend en fait que ce n'est qu'un magazine de gossip et de propagande qui colporte, qui raconte les shikayat, les petites bagarres des tribus du désert d'Arabie dans une région qui s'appelait la Mecque, dans une petite ville qui s'appelait la Mecque et un peuple qui s'appelait les Quraïchites. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, bande de têtes de raisin sec, bande de zanim mécréants. Et en attendant le volet historique de cette dingue épopée islamique, que dire d'autre ? Que dire d'autre ? Eh bien, prenez soin de vous et à très bientôt.